Jean-Henri Fabre. Le Minotaure Typhée. Pour désigner l'insecte objet de ce chapitre, la nomenclature savante associe deux noms redoutables, celui de Minotaure, le taureau de Minos nourri de chair humaine dans les cryptes du labyrinthe de Crète, et celui de Typhée, l'un des géants fils de la terre qui tentèrent d'escalader le ciel. À la faveur de la pelote de fil que lui donna Ariane, fille de Minos, l'Athénien Thésée parvint au Minotaure, le tua et sortit sain et sauf, ayant délivré pour toujours sa patrie de l'horrible tribu destinée à la nourriture du monstre. Typhée, foudroyé sur son entassement de montagne, fut précipité dans les flancs de l'Etna. Il y est encore. Son haleine est la fumée du volcan. S'il tousse, il expectore des coulées de lave. S'il change d'épaule pour se reposer sur l'autre, il met en émoi la Sicile. Il la secoue d'un tremblement de terre. Il ne déplaît pas de trouver un souvenir de ces vieux contes dans l'histoire des bêtes. Si de vagues analogies relient en outre le fabuleux et l'historique, nom et prénom sont des plus heureux. Tel est le cas du Minotaure Typhée. On appelle de la sorte un coléoptère noir de taille assez avantageuse. C'est un pacifique, un inoffensif, mais il est encore né mieux que le taureau de Minos. Nul parmi nos insectes amateurs de panoplie ne porte armure aussi menaçante. Le mâle a sur le corselet un faisceau de 3 épieux acérés, parallèles et dirigés en avant. Supposons-lui la taille d'un taureau, et Thésée lui-même, le rencontrant dans la campagne, n'oserait affronter son terrible trident. Le Typhée de la fable eut l'ambition de saccager la demeure des dieux en dressant une pile de montagnes arrachées de leur base. Le Typhée des naturalistes ne monte pas, il descend, il perfore le sol à des profondeurs énormes. Le premier, d'un coup d'épaule, met une province en trépidation. Le second, d'une poussée de l'échine, fait trembler sa topinée comme tremble l'Etna lorsque son enseveli remue. Le Minotaure Typhée affectionne les lieux découverts, sablonneux, où, se rendant au pâturage, les troupeaux de moutons sèment leurs traînées de noires pilules. Les terriers, reconnaissables à la topinée qui les surmonte, commencent à se montrer fréquents en automne lorsque des pluies sont enfin venues humecter le sol calciné par les torridités estivales. Alors, de dessous terre, les jeunes de l'année doucement émergent et viennent pour la première fois aux réjouissances de la lumière. Alors, en des chalets provisoires, on festoie quelques semaines, puis on thésaurise en vue de l'hiver. Visitons la demeure. Maintenant travail aisé auquel suffit une simple houlette de poche. Le manoir de l'arrière-saison est un puits du calibre du doigt et de la profondeur d'un empan environ. Pas de chambre spéciale, mais un trou de sonde, vertical autant que le permettent les accidents du terrain. Tantôt d'un sexe, tantôt de l'autre, le propriétaire est au fond, toujours isolé. L'heure de se mettre en ménage et d'établir la famille n'étant pas encore venue, chacun vit en ermite et ne s'occupe que de son bien-être. Au-dessus du reclus, une colonne de crottins de moutons encombre le logis. Il y en a parfois de quoi remplir le creux de la main. Comment le Minotaure a-t-il acquis tant de richesses? Il amasse aisément, affranchi qu'il est du tracas des recherches, car il a toujours soin de s'établir à proximité d'une copieuse émission. Il fait cueillette sur le seuil même de sa porte. Lorsque bon lui semble, de nuit surtout, il choisit dans l'amas de pilules une pièce à sa convenance. De son chaperon comme levier, il l'ébranle en dessous. D'un doux roulis, Il l'amène à l'orifice du puits où le butin s'engouffre. Suivent d'autres olives une par une, toutes de manœuvre aisée à cause de leur forme. Ainsi roulent des fûts sous la poussée du tonnelier. Vers les premiers jours de mars, commencent à se rencontrer des couples adonnés de concert à la nidification. Les deux sexes jusque-là isolés en des terriers superficiels se trouvent maintenant associés pour une longue période. Dès l'éveil printanier et même parfois à la fin de l'automne, avant d'avoir connu leurs collaborateurs, les vaillantes futures mères se mettent à l'ouvrage, choisissent bonne place et forment un puits dont la profondeur découragerait quiconque n'est pas doué d'une belle patience. Il faut au Minotaure un logis de profondeur outrée, comme n'en excave aucun autre fouisseur, mesurant jusqu'à 1,5 mètre. La mère, mieux entendue aux choses d'éducation, occupe l'étage inférieur. Seule, elle fouille, versée qu'elle est dans les propriétés de la verticale qui économise le travail en donnant la plus grande profondeur. Elle est l'ingénieur, toujours en rapport avec le front d'attaque de la galerie. L'autre est son manœuvre. Il stationne à l'arrière, prêt à charger les déblais sur sa haute cornue. Plus tard, l'excavatrice se fait boulangère. Elle pétrit en cylindre les gâteaux des fils. Le père est alors son mitron. Il lui amène du dehors de quoi faire farine. Comme dans tout bon ménage, la mère est le ministre de l'intérieur, le père est celui de l'extérieur. Tout au fond de la cuve se trouve le nid, la motte centrale, d'acquisition si pénible. Elle contient une conserve alimentaire en forme de saucisse, à peu près de la longueur et de la grosseur du doigt. C'est composé d'une matière sombre compacte, stratifiée par couches, où se reconnaissent les pilules du mouton réduites en miettes. Parfois la pâte est fine, presque homogène d'un bout à l'autre du cylindre. Plus souvent la pièce est une sorte de nougat où de gros débris sont noyés dans un ciment d'amalgame. Suivant ses loisirs, la boulangère varie apparemment la confection, plus ou moins soignée, de sa pâtisserie. La chose est étroitement moulée dans le cul-de-sac du terrier, où la paroi est plus lisse et mieux travaillée que dans le reste du puits. L'œuf est au-dessous des provisions, dans le sable même, tout dépourvu des soins méticuleux où les mères excellent. Il y a là, non une cellule à paroi lisse, comme semblerait en réclamer le délicat épiderme du nouveau-né, mais une anfractuosité rustique, résultat d'un simple éboulis plutôt que de l'industrie maternelle. En cette rue de couchette, à quelque distance des vivres, le ver doit éclore. Pour atteindre le manger, il lui faudra faire crouler et traverser un plafond de sable de quelques millimètres d'épaisseur. En vue de ses fils, la mère Minotaure est experte dans l'art des saucisses, mais elle ignore à fond les tendresses du berceau. Pourquoi les Minotaures plongent-ils dans le sol à d'aussi grandes profondeurs? Parce que leur famille, éclose vers le mois de juin, doit trouver sous la dent des vivres tendres lorsque les ardeurs de l'été cuiront le sol comme briques. La menue saucisse à la profondeur d'un empan ou deux deviendrait alors chose racornie, immangeable, et le ver périrait, incapable de mordre sur la dure pièce. Il importe donc que les victuailles soient descendues en cave, à des profondeurs où les plus violents coups de soleil n'amèneront pas la dessiccation. Essayons de voir les curieuses choses qui se passent sous terre au moment de l'édification du nid. La mère est toujours en avant, à la place d'honneur, dans la cuvette d'attaque. Seule, de son chaperon, elle laboure. Seule, de la herse de ses bras dentés, elle gratte et fouille, non relayé par son compagnon. Le père est toujours en arrière, fort occupé lui aussi, mais d'une autre besogne. Sa fonction est de véhiculer au dehors les terres abattues et de faire place nette à mesure que la pionnière approfondit. Son travail de manœuvre n'est pas petite affaire. Nous pouvons en juger par la taupinée qu'il élève dans l'exercice de son métier au champ. C'est un volumineux monceau de bouchons de terre de cylindres mesurant la plupart 1 pouce de longueur. Cela se voit au seul examen des pièces. Le déblayeur opère par blocs cyclopéens. Il ne transporte pas miette par miette les produits de l'excavation, il les expulse par agglomérés énormes. Que dirions-nous d'un mineur obligé de hisser à la surface, à quelques 100 mètres d'élévation, une accablante benne de houille par la voie verticale d'un puits étroit, où l'ascension se pratiquerait sur le seul appui des genoux et des coudes? Le père Minotaure a pour besogne courante l'équivalent de ce tour de force. Très dextrement, il y réussit. Il se tient au talon de la fouisseuse, ramenant par brassée devers lui les terres remuées. Il les pétrit, ce que permet leur fraîcheur. Il les amalgame en un tampon qu'il refoule dans le canal. Puis cela chemine, le fait en avant, lui en arrière et poussant de sa fourche à 3 pointes. La mère fouille, le père à quelque distance, attend que le monceau de gravats commence à gêner la travailleuse. Il s'approche alors, par petites brassées il attire de vers lui et se fait glisser sous le ventre les terres remuées qui, plastiques, s'agglomèrent en pelote sous le foulage des pattes d'arrière. L'insecte maintenant se retourne au-dessous de la charge. Le trident enfoncé dans le paquet, ainsi qu'une fourche dans la botte de foin que l'on met en grenier, les pattes antérieures, à larges bras dentelés, retenant le fardeau, l'empêchant de s'émietter, il pousse de toute son énergie. Et hardi, cela s'ébranle, cela monte, très lentement il est vrai, mais enfin cela monte. Parvenu à quelque distance de l'orifice, l'insecte laisse là sa motte qui, moulée dans le canal, reste en place, immobile. Il revient au fond, non en se laissant précipiter d'une chute brutale, mais peu à peu, de façon prudente. Une seconde pelote est hissée, qui s'adjoint à la première et fait corps avec elle. Une troisième suit. Enfin d'un terrier ahant, il expulse le tout en un bouchon. Ce sont autant de pierres de taille, d'agglomérés, qui défendent l'accès du domicile. Avec ses déblais convenablement moulés, s'obtient de la sorte un système de fortification cyclopéenne. De tels puits exigent labeur se prolongeant le mois entier, si ce n'est plus. Or, pour se restaurer, que mangent les 2 puisatiers en cette longue période? Rien, absolument rien. Ni l'un ni l'autre ne se montre au dehors, à la recherche de victuailles. La mère ne quitte pas un instant le fond, le père seul monte et redescend. Quand il monte, c'est toujours avec une charge de déblais. Mais l'insecte lui-même ne se montre pas, car l'embouchure du cône éruptif reste close par le tampon expulsé. Tout se passe en secret, à l'abri des indiscrétions de la lumière. Les paysans, mes voisins, rudes gratteurs de terre, font 4 repas par jour. Dès l'aube au seau du lit, morceaux de pain et figues sèches pour tuer le ver, disent-ils. Au champ, vers les 9 heures, la femme apporte la soupe et le complément, anchois, olives, qui font boire sec. Sur les 2 heures, à l'ombre d'une haie, se retire de la besace le goûter, amandes et fromages. Suit un somme au fort de la chaleur. Quand vient la nuit, rentrer à la maison, où la ménagère a préparé salade de laitue et friture de pommes de terre assaisonnées d'oignons. Au total, beaucoup de mangeailles pour un travail modéré. Ah, que le Minotaure nous est supérieur! 1 mois durant et plus, sans nourriture aucune, il accomplit besogne forcenée, toujours vigoureux, toujours dispo. Si je disais à mes voisins les remueurs de glèbes, qu'en un certain monde le travailleur trime dur et le mois entier sans prendre réfection, il me répondrait par un large rire d'incrédulité. Le terrier est prêt, l'heure est venue d'y établir la famille. Le père sort alors pour la première fois de chez lui et se risque au grand jour. Il va aux pilules, en choisit une à sa convenance, et à petits coups de boutoir la fait rouler ainsi qu'un tonnelet, car c'est toujours le mâle et le mâle seul qui sort et vient au vivre. La mère au grand jamais ne se montre, absorbée qu'elle est en d'autres occupations au fond du terrier. Les apports se font avec parcimonie. Là-bas, dessous, paraît-il, les apprêts culinaires sont de minutieuses lenteurs. Il faut donner à la ménagère le temps d'élaborer les pièces descendues avant d'en amener d'autres qui encombreraient l'officine et gêneraient la manipulation. Le mâle entre, enlaçant des pattes la pilule qu'il a soin d'introduire par un bout. Parvenu à une certaine distance du fond, il lui suffit d'obliquer légèrement la pièce pour que celle-ci, en raison de l'excès d'ampleur de son grand axe, trouve appui par ses deux extrémités contre la paroi du canal. Ainsi s'obtient une sorte de plancher temporaire apte à recevoir la charge de deux ou trois pilules. Le tout est l'atelier où va travailler le père, sans dérangement pour la mère, occupée elle-même en dessous. C'est le moulin d'où va descendre la semoule destinée à la confection des gâteaux. Le meunier est bien outillé, voyez son trident. Sur le corselet, base solide, se dressent trois épieux acérés, les deux latéraux longs et le médian court, tous les trois dirigés en avant. À quoi bon cette machine? On y verrait d'abord qu'une parure masculine, comme la corporation des bousiers en porte tant d'autres, de formes très variées. Or, c'est ici mieux qu'un ornement. De son atour, le minotaure fait outil. Les trois pointes inégales décrivent un arc concave, dans lequel peut s'engager la rotondité d'un crottin. Sur son incomplet et branlant plancher, où la station exige l'emploi des quatre pattes d'arrière, arc-boutées contre la paroi du canal, comment fera l'insecte pour maintenir fixe la glissante olive et la fragmenter? Voyons-le à l'œuvre. Se baissant un peu, il implante sa fourche dans la pièce, dès lors immobilisée, prise qu'elle est dans la lunule de l'outil. Les pattes antérieures sont libres. De leur brassard à dentelure, elles peuvent scier le morceau, le dilacérer, le réduire en parcelles qui tombent à mesure par les vides du plancher et arrivent là-bas, à la mer. Ce qui descend de chez le meunier n'est pas une farine passée au blutoir, mais bien une grossière semoule, mélange de débris poudreux et de morceaux à peine broyés. Si incomplète qu'elle soit, cette trituration préalable sera d'un grand secours pour la mère, en méticuleux travail de panification. Elle abrégera l'ouvrage, elle permettra d'emblée la séparation du médiocre et de l'excellent. Lorsque, à l'étage d'en haut, tout est trituré, même le plancher, le meunier cornu remonte à l'air libre, fait récolte nouvelle et recommence, tout à loisir, sa besogne d'émiettement. La boulangère, de son côté, n'est pas inactive en son officine. Elle cueille les débris pleuvant autour d'elle, les subdivise davantage, les affine, en fait triage. Ceci plus tendre pour la mie centrale, cela plus coriace pour la croûte de la miche. Virant d'ici, virant de là, elle tapote la matière avec le battoir de ses bras aplatis. Elle la dispose par couches, comprimée après à l'aide d'un piétinement sur place, pareil à celui du vigneron foulant sa vendange. Rendue ferme et compacte, la masse deviendra de meilleure conservation. En 10 jours environ de soins combinés, le ménage obtient enfin le long pain cylindrique. Le père a fourni la mouture et la mère a pétri. Tout étant bien en ordre, le mâle sort du terrier. Il erre, insoucieux, lui d'ordinaire si craintif. Le manger lui est indifférent. Quelques pilules restent à la surface. À tout instant, il les rencontre. Il passe outre, dédaigneux. Il n'a qu'un désir, s'en aller au plus vite. Cela se voit à ses inquiètes marches et contre-marches. Il culbute, se remet sur pied, indéfiniment recommence, oublieux du terrier où jamais plus il ne rentrera. Le vaillant, ses devoirs de père de famille remplis, se sentant défaillir, va mourir à l'écart, bien loin, pour ne pas souiller la demeure d'un cadavre et troubler la veuve dans la suite des affaires. J'admire cette stoïque résignation de la bête. Que fait maintenant la mère Minotaure dans la fraîcheur de sa crypte? Elle surveille sa nidée. La durée de l'œuf est de 4 semaines environ, mais la larve prend son temps et passe toute la période estivale avant de se transformer. Il fait si bon au sein d'une saucisse dans une crypte affranchie des variations atmosphériques, loin des conflits de l'extérieur où les réjouissances ne sont pas sans péril. Il est si doux de ne rien faire, de somnoler en digérant. Pourquoi se presser? Les tracas de la vie active ne viendront que trop tôt. Le Minotaure paraît être de cet avis. Il prolonge autant que possible les béatitudes du premier âge. Le vermisseau qui vient de naître dans le sable s'excrime des mandibules et des pattes, travaille de la croupe, s'ouvre un passage et, du jour au lendemain, parvient aux vivres empilés par-dessus. Au bout d'une paire de mois, tantôt montant et tantôt descendant à travers sa colonne de victuailles pour stationner aux meilleurs endroits, c'est une belle larve correcte de forme et luisante de santé. Dans les derniers jours du mois d'août finit la période larvaire. Travaillée par la digestion du ver, la colonne alimentaire, la saucisse, tout en conservant sa forme et ses dimensions, s'est convertie en une pâte dont il serait impossible de reconnaître l'origine. Pas une miette ne reste où la loupe retrouve une fibre. Le mouton avait déjà finement divisé la matière végétale. Le ver, incomparable triturateur, a repris la dite matière et l'a subdivisée encore davantage, porphyrisée en quelque sorte. Ainsi sont extraites et utilisées les particules nutritives dont le quadruple estomac du mouton n'avait pu tirer parti. Enfin, aux approches d'octobre qui amènent les premières pluies, l'évolution est complète. C'est la saison des liesses automnales. Alors que le sol converti en cendrier tout l'été reprend fraîcheur et verdoie d'un gazon où le berger conduit son ouaille. C'est la fête du Minotaure, l'exode des jeunes qui pour la première fois viennent aux joies de la lumière parmi les dragées des moutons au pâturage. Lorsque viennent ces liesses de l'automne, la mère remonte à la surface, accompagnée des jeunes, qui se dispersent à leur guise pour festoyer au lieu fréquenté des moutons. Alors, n'ayant plus rien à faire, la dévouée périt. Oui, au milieu de l'indifférence générale des pères pour les fils, le Minotaure est, à l'égard des siens, d'un zèle bien remarquable. Oublieux de lui-même, non séduit par les ivresses du printemps, alors qu'il ferait si bon voir un peu le pays, banqueter avec les confrères, lutiner les voisines, il s'opiniâtre au travail sous terre, il s'exténue pour laisser un avoir à sa famille. Lorsqu'il raidit pour la dernière fois ses pattes, celui-là peut se dire « J'ai fait mon devoir, j'ai travaillé ». D'une inspiration inconsciente, ces humbles ont d'emblée magnifiquement résolu le problème paternel, encore nébuleux chez nous. Le père Minotaure, notamment, s'il avait voix délibérative en ces graves affaires, amenderait notre décalogue. En de frustes versiculets imités de ceux du catéchisme, il y inscrirait « Tes enfants tu élèveras, du mieux possible et vaillamment ».